Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Territoire du symbole, du mythe et du rêve, les cathédrales sont la jonction de la terre et du ciel, point de ralliement des hommes portés par un même élan. Elles sont comme un appel vers Dieu, comme un phare guidant les hommes, à la fois témoins d'un passé empreint de spiritualité, d'un présent d'ouverture et d'accueil, d'un futur porteur d'espoir. Elles nous rendent conscients de nos origines et soyons reconnaissants à nos ancêtres de ce qu'ils ont construit avant nous et de ce qu'ils nous ont légué, ces magnifiques témoins de la foi. Soyons reconnaissants aussi à Marc Bradfer d'avoir eu l'idée de rassembler en un seul ouvrage les 103 cathédrales de France et à Monseigneur d'Agens, évêque d'Angoulême et membre de l'Académie française, d'avoir présenté et commenté ces monuments dans un livre édité chez Empreinte et intitulé « Notre-Dame et ses sœurs ». Bonjour Marc Bradfer.
Bonjour Monique Fauché.
Et bonjour Thierry Catalano.
Bonjour
qui nous fait
Monique
le plaisir
Fauché.
De nous rejoindre. Vous êtes poète et vous nous direz entre autres un poème sur Notre-Dame de Paris, un très beau poème. Et vous nous parlerez également d'un recueil de poètes dont les droits vont à l'association Laurette Fugain qui lutte contre la leucémie. Mais parlons d'abord de cet ouvrage. Alors Marc Bradfer, parlons de cet ouvrage. Comment ça s'est passé en fait? Vous avez eu l'idée comme ça?
S'il n'y a pas de cathédrale, il n'y aurait pas de livre. Et s'il n'y a pas l'incendie du 15 avril 2019, il n'y aurait pas ce livre.
Il faut allumer le feu alors, comme dans la chanson.
Les catastrophes, comme les bonheurs, font écrire. Mais parfois, ce sont les malheurs qui font écrire des livres. Ou l'espérance aussi.
Oui.
Et ce livre est né finalement d'une histoire qui n'est pas de moi. Je n'ai été que le passeur pour cet ouvrage, parce que je voulais, je pouvais, et j'avais envie, comme un devoir impérieux, d'honorer cette histoire, mais pas seulement Notre-Dame de Paris, qui concentrait bien sûr toute l'émotion. Ce 15 avril au soir à 19h, au moment où le président de la République devait faire un discours pour la France.
Et on parlera de ce drame un peu plus tard.
Bien
effectivement.
Et ce feu incandescent, cette lumière que nous retrouverons dans le poème de Thierry Catalano, qui a participé à cet ouvrage, poète toulousain, ce feu qui détruit porte aussi la lumière de l'espérance.
Donc,
Notre-Dame.
Vous avez voulu rassembler en un seul ouvrage. J'ai l'impression que ça n'a jamais été fait.
Il y avait un ouvrage paru chez un éditeur en 1950. Je l'avais en main le lendemain de la catastrophe, dans lequel l'académicien Daniel Rops avait lui-même écrit une très longue introduction avec des photos de Jean Roubier. Mais toutes les cathédrales n'étaient pas présentes. Et certaines, évidemment, les plus célèbres, étaient beaucoup plus représentées par des photographies plus nombreuses.
Tandis que là, elles y sont toutes.
Elles y sont toutes. Je savais, par expérience de l'édition, que d'autres ouvrages soit seraient réédités très rapidement, soit seraient écrits. Il en est sorti chez Bayard, Notre-Dame vue du ciel, etc. Donc je voulais trouver un angle éditorial à la fois complet, qui m'intéressait, inspiré par cet ouvrage paru en 1950, et parce que la France catholique, la France du Moyen-Âge, ne se résume pas à l'île de la Cité. Les cathédrales ne se résument pas à Notre-Dame de Paris.
Et puis il n'y a pas que la France du Moyen-Âge dans nos cathédrales.
Bien entendu, l'Église, depuis l'avènement de Jésus-Christ, qui est la plus ancienne institution du monde occidental, a constamment construit. Nous évoquerons la cathédrale d'Évry tout à l'heure.
On va en parler justement de ces époques
bien
charnières. Évidemment, on peut dire à nos auditeurs que ces cathédrales ont été disposées dans l'ordre alphabétique des villes dans lesquelles elles se trouvent. Alors, ce qui m'a frappé, Marc, je vous le dirai, parce que finalement, moi, je n'avais jamais eu l'occasion, ce livre de Daniel Rops, commenté par Daniel Rops, je ne l'ai pas eu entre les mains, je n'avais jamais eu l'occasion de comparer ces cathédrales, et ça, c'est très intéressant. Parfois, il y a quelques similitudes, mais finalement, aucune n'est semblable à une autre. J'en ai pas vu.
Alors, aucune n'est semblable, bien sûr, parce que leur construction s'est échelonnée quand bien même elle fut concentrée entre le XIIe et le XIIIe siècle pour les travaux de base, bien sûr, la fondation même de la cathédrale, les régions disposaient de matériaux différents. Les matériaux pour la brique de la cathédrale d'Albi ne sont pas les mêmes que les pierres calcaires du nord de la France, la cathédrale de Laon, de Châlons en Champagne, bien sûr de Rouen et Notre-Dame de Paris, cela va de soi. Les régions sont plus pauvres, le sud est tout de même plus pauvre que le nord de la France et l'Europe centrale, où elles ont fleuri dans cette époque du Moyen-Âge. Donc on a, et puis la bourgeoisie qui finance aussi les cathédrales est beaucoup plus riche dans le nord. Où le commerce se développe.
Oui, alors évidemment, on trouvera entre la cathédrale de Reims et Notre-Dame de Paris quelques similitudes. Mais enfin, on peut voir effectivement ce que vous dites, on le voit très nettement, la richesse du pays d'Olne, si j'ose dire, par rapport à notre pays d'Oc. Ce qui m'a frappé, c'est que quelques-unes de nos régions semblent fortifiées. Et je me suis dit, est-ce que c'était lié aux guerres, également aux problèmes que nous avions du catharisme. Je me suis posé la question. En tout cas, ça c'est intéressant de voir aussi que plusieurs, et essentiellement dans nos régions. Et puis alors, il y en a qui sont de style baroque, et on a l'impression d'être dans un théâtre, pour certains, face à un théâtre du moins. Et on parlera, vous nous parlerez des celles les plus récentes, et puis il y a les exotiques, je dirais, en tout cas, celles d'outre-mer, et ça aussi c'est très intéressant.
Oui, on a tendance, parce que le mot est associé, je l'évoquais directement au Moyen-Âge et à la splendeur des grandes cathédrales, mais l'église ecclésia, en grec, qui veut dire communauté, rassemble. Et l'Église rassemble les riches, les pauvres, les puissants et les misérables, les régions du sud et les régions du nord. Les nefs les plus élancées vers le ciel, les plus vastes, comme Beauvais, Amiens, bien sûr Notre-Dame, qui est une grande cathédrale sur le plan des dimensions. Mais la France, c'est la France de tous. C'est la France de la métropole, c'est la France de l'outre-mer. Il ne fallait pas oublier Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Denis, Saint-Denis.
Et qui ont
la cathédrale Saint-Denis, à La Réunion, porte le nom de la ville, Saint-Denis, qui est un grand saint, bien sûr, dans l'histoire de l'Église. Et donc, j'ai voulu un livre, je dirais, parfaitement équitable, démocratique, où toutes les cathédrales ont leur place, avec, parce que ce sont les sœurs de Notre-Dame de Paris.
Oui, et quand je dis des influences exotiques, je pensais évidemment aux cathédrales d'outre-mer, mais même Marseille, en regardant de près, mais je me suis dit, dans le fond, on a un autre regard en lisant cet ouvrage, à savoir qu'il y a une influence néo-byzantine très nette.
Ça ne m'étonne pas pour Marseille, où l'architecture de la cathédrale est différente de la cathédrale Saint-Jean de Bordeaux. Pourquoi ? Parce que Marseille, fondée par les Grecs, Phocée, n'est-ce pas ?
Exactement.
Marseille, un très grand port historique de la Méditerranée, accueille des Turcs, des Byzantins,
et continue
des Italiens.
D'ailleurs
c'est très cosmopolite.
Absolument.
Et l'Église, dans cette capacité d'agrégation, de rassemblement, d'union, va finalement pouvoir, au fil des siècles, s'inspirer et imprégner tous les styles.
Alors, bizarrement, il y a quand même, j'en ai compté trois, peut-être que je l'ai mal compté, mais il y a trois églises aux allures très modernes. Alors la plus récente, nous la connaissons, vous pouvez en dire un mot ?
La cathédrale d'Évry, effectivement, vu l'augmentation de la population dans la grande couronne parisienne des années 60-70, l'Église de France a érigé et a consacré cette cathédrale. Vous me direz certainement le nom, Monique Fauché, je sais qu'elle est à Évry. Il y avait d'ailleurs eu une souscription nationale lancée par l'Église pour que les Français et d'autres participent à l'édification, à la construction de cette cathédrale
de
ouverte vers le ciel, comme un cloître qui est ouvert vers le ciel, à la fois fermé et ouvert, vers la verticalité, vers la transcendance. Et dans la page que vous avez sous les yeux, effectivement, on voit que cette couronne, comme celle qui... comment dirais-je, honore
la Vierge
couronne est arborée parce que l'arbre, comme tel l'arbre de Jessé, est toujours symbolique de l'union entre le ciel, les racines de la terre et les espérances célestes.
Oui, c'est une très belle cathédrale. Alors, une que l'on connaît moins, c'est celle de Créteil, cathédrale Notre-Dame, encore une. On en parlera de cet hymne à Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame de Créteil, qui est tout à fait récente aussi, honnêtement, qui m'inspire moins. Je donnerai mon avis. Écoutez, on ne peut pas tout aimer, hein, je pense. Voilà. Et puis, une autre également récente. Alors, je suis plongée dans votre ouvrage.
Il y a celle de Taïoé aussi, le Marquise, pour l'outre-mer, que je ne veux jamais oublier. Celle de Lille, bien sûr.
De Lille. Et alors, oui, on s'est posé la question.
Notre-Dame mais là, de la Treille.
Voilà, on s'est posé la question de savoir s'il y a eu des bombardements, parce qu'on a l'impression qu'à l'arrière, il y a des bâtiments anciens, parce que la façade, du moins, est tout à fait moderne. Mais voilà. Et on a envie, et ça... Bravo. On a envie de se plonger dans l'histoire de ces cathédrales, d'en savoir davantage encore. Voilà. Alors, donc, d'éminents auteurs apparaissent dans cet ouvrage. Vous pouvez m'en dire un mot ?
Oui, bien sûr, mais brièvement. Les auteurs, les poètes, les théologiens, les philosophes, les historiens, bien sûr, ont abondamment écrit sur les cathédrales. Parce qu'elles traversent le temps jusqu'à nous. Et les cathédrales ont inspiré aussi des œuvres cinématographiques majeures de l'époque contemporaine. Pour les auteurs, nous voulions que toutes les photos de chacune des 104 cathédrales, 103 après Notre-Dame de Paris, qu'il y ait quelques grands auteurs pour montrer que le texte accompagne l'image. François Villon, Gérard de Nerval, Aragon, bien entendu Victor Hugo pour son roman Notre-Dame de Paris paru en 1841. Et comme l'Église est partout et que je suis à Toulouse et que cet ouvrage a associé des compétences toulousaines par l'éditeur Hervé Poulain aux éditions Empreinte et le maquettiste et designer graphique André Ponce, j'ai souhaité aussi qu'un poète toulousain à nos côtés, Thierry Catalano figurera dans l'ouvrage aux côtés des autres. Car tous peuvent garder le silence proche de la cathédrale ou à l'intérieur. Tous peuvent prier, l'honorer, parler, écrire.
Est-ce que je peux dire quand même, rappeler à nos auditeurs que les droits d'auteur et de direction de cet ouvrage sont intégralement reversés
aux missions d'insertion de la Fondation Notre-Dame. Je l'ai voulu et mon éditeur Hervé Poulain m'a suivi dans ce vœu. Bien sûr, je n'imaginais pas vouloir gagner de l'argent sur un tel projet, mais cela c'est personnel. Il y avait 1 milliard de promesses de dons, 1 milliard d'euros de promesses de dons pour la reconstruction de la cathédrale. Je n'ai pas à discuter la générosité nationale, populaire et internationale qui a immédiatement œuvré pour reconstruire la cathédrale, abattue et blessée. Mais il ne fallait pas oublier les autres et il y a des missions d'insertion. Voilà.
Important, c'est important de préciser. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot, parce que nos auditeurs, bon, bien attentifs, parfois ne connaissent pas tellement, parce que je me suis renseignée autour de moi, ne connaissent pas trop la différence entre cathédrale et basilique. Ce sont toutes des églises. Voilà, ça on le
oui,
sait.
Oui, c'est-à-dire des lieux de culte. L'église, c'est le lieu de culte où est... où le prêtre, quel que soit son degré, prêtre, évêque, archevêque, cardinal, voire pape, bien sûr, le degré suprême dans l'Église, de responsabilité et de fonction sacerdotale, l'Église, c'est la communauté.
Voilà, l'assemblée du peuple,
l'Ecclésia.
Alors, la cathédrale et la basilique sont cependant différentes.
Alors, la proximité, bien sûr, dans l'architecture ou la majesté de l'édifice, évidemment, se concorde. La cathédrale au sens strict, au sens étymologique, cathédrale en grec, c'est la chaise, c'est le siège.
Le siège.
Donc le siège au sens de lieu du pouvoir exercé par l'évêque, qu'il soit choisi par la communauté, comme ce fut le cas au début de l'Église, dans certaines communautés en tout cas, ou qu'il soit ensuite évidemment désigné par le pape. Mais c'est le siège épiscopal où s'exerce le pouvoir spirituel, de l'évêque et évidemment de l'archevêque pour les grandes cathédrales, on pourrait dire, régionales.
D'accord.
La basilique, au sens grec du mot, c'est le roi. Basileus, c'est le roi, en grec ancien. Donc c'est très proche. Mais il est arrivé parfois que l'évêque passe de la basilique à la cathédrale. Mmh. Voilà, donc les fonctions, on pourrait dire, les fonctions du bâtiment, de l'édifice et du monument étaient délocalisées ou étaient transférées.
Et voilà. Je me suis rendu compte aussi que souvent on a construit des églises, des cathédrales, pardon, sur des vestiges de chapelles ou d'églises. Qui sont tombés en ruine, etc.
Oui, ou des lieux de culte, on pourrait dire romains, polythéistes. La cathédrale de Chartres est construite, ou la Dorade à Toulouse,
la Dorade
sur l'église
visigothique.
La cathédrale de Rodez également.
Moi, il me semblait que même l'église de la Dorade était construite sur la place d'un temple romain.
C'est bien possible, vous savez. La vie spirituelle se transmet par la culture, par la parole, sans doute par toutes les interrogations que l'homme adresse à lui-même et à l'univers. La vie se transmet aussi par les gènes, par la biologie. Cela étant, il y a toute une transmission de la foi, de la croyance, de la vérité et de ce que nous cherchons. Mmh. Les hommes et les femmes ne cessent de chercher. Certains trouvent ou croient, c'est le domaine de la foi, avoir trouvé les clés de l'univers, l'origine et la fin. En revanche, aucune civilisation n'a achevé ni l'œuvre humaine, ni l'œuvre céleste.
Et là, on se rend compte qu'il y a une continuité et nous sommes redevables à nos anciens d'avoir construit de telles merveilles. La majorité des cathédrales a été érigée à une courte période. Enfin, quand je dis courte période, façon de parler, entre 800 et 1600, mais surtout au XIIe et XIIIe siècle.
Oui, et ça, c'est un mouvement, on pourrait dire, quasiment anthropologique, culturel, spirituel, économique, politique, social, architectural, artistique. Dans tous les domaines, il y a cette éclosion de la cathédrale.
Avec une vigueur extraordinaire.
Avec une vigueur extraordinaire. Oui. C'est Daniel Robbs qui déclare que si on enlevait les cathédrales du Moyen-Âge, on ne comprendrait rien au Moyen-Âge. Mmh. En revanche, si on enlevait tout du Moyen-Âge en ne laissant que les cathédrales, on comprendrait tout du Moyen-Âge. Mmh. Et cette éclosion va de pair avec l'enrichissement, on pourrait dire, de l'Europe, par le commerce, par les voies.
Si je peux me permettre de vous interrompre juste un petit instant. Alors, je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, mais j'ai appris que le financement de la cathédrale, on disait que le financement, que la cathédrale était la fille des moissons, puisqu'elle a été financée pour l'essentiel par le prélèvement agricole de l'évêque et du chapitre.
C'est sûrement vrai. Il fallait de l'argent pour payer les maîtres verriers, les maîtres charpentiers, les compagnons, les apprentis,
le transport des matériaux.
On l'oublie. Exactement. Mais le transport des matériaux se faisait dans le nord de la France sur plusieurs dizaines de kilomètres. Comme les pyramides égyptiennes. En 20 ans, les plus grandes pyramides ont été édifiées. Oui. C'était prodigieux.
Alors, si on parle du XIIe, XIIIe siècle, où là, il y a vraiment une floraison de magnifiques constructions, la plus ancienne, moi, j'ai vu que c'était Verdun, 990. Oui. Mais il y en a eu également quelques-unes au XIXe siècle. Et puis, on les a mentionnées au XXe siècle. Alors, les architectes. Alors, Marc Bradfer, ma grande déception, c'est de découvrir que moi, je ne connaissais aucun de ces architectes qui auraient mérité d'être connus et reconnus. Mais en fait, pour beaucoup, ils ont été anonymes. La plupart.
J'avouerai humblement que je ne suis pas spécialiste de la construction des cathédrales. Les architectes se déplaçaient d'une région à l'autre, parfois même au-delà des frontières, entre guillemets, des frontières de la France de l'époque. Ils pouvaient travailler à la fois en Allemagne, en Italie du Nord, en France, bien entendu. Il y avait une transmission aussi orale dans les corporations de métiers qui se faisaient. La loge était l'atelier même qui jouxtait le bâtiment en début de construction de la cathédrale, parce que la cathédrale, elle va concentrer aussi des savoir-faire, des savoir-être,
différents.
Et des représentations du monde, de la société ouverte aussi vers le cosmos.
Oui, mais ce
c'est
voilà,
tout un univers.
Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est que pour la plupart, ce sont des tailleurs de pierre, comme il existe encore. J'ai rencontré en Roumanie un tailleur de pierre travaillant pour Notre-Dame, avant ce qui s'est passé. Hein. Tailleur de pierre qui, à force d'expérience et de curiosité intellectuelle, sont capables de construire des édifices de cet ordre. Il y en a peu qui se sont écroulés quand même. Hein.
Bien entendu, ce qui est assez exceptionnel dans cet élan, et vous aviez raison, Monique Fauché, de le dire dans ce propos, qu'en quelques dizaines d'années, en deux siècles, émergent, ouais, éclosent autant de magnifiques monuments, c'est qu'on a la rencontre de la spiritualité la plus profonde avec le savoir rationnel le plus précis. Mmh. On a à la fois l'espérance de l'éternité et du salut avec la rationalité du compas et de l'équerre, oui, la plus éprouvée.
Ah oui.
Et ça c'est la rencontre, oui, de l'irrationnel,
tout à fait,
de la religion et de la technique, parce qu'on a les artisans les meilleurs de l'Europe.
Oui.
Les artistes, les meilleurs. On a les meilleurs.
D'accord.
À travers les cathédrales.
Alors, avant d'écouter justement un court extrait de « Voici venir le temps des cathédrales », c'est Notre-Dame de Paris, évidemment, qui a été un réel succès, mérité d'ailleurs. Juste une petite anecdote qui m'a fait rire, je me suis renseignée, évidemment. Il paraît que les maîtres d'œuvre faisaient des compétitions de hauteur des cathédrales qui construisaient des constructions. Et la nef de Beauvais a obtenu un record 48 mètres de hauteur. Et seulement, elle s'est effondrée en 1284. Et là, ça a arrêté net ses désirs. Vous voyez, il y avait une forme d'orgueil peut-être. Et puis, le destin a fait
le fantasme de la tour de Babel se transmet de génération voilà, en génération.
Voilà. Alors, nous écoutons un court extrait de « Voici le temps des cathédrales ».
Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré. Après pierre, jour après jour, de siècle en siècle, avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains.
Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains.
Est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire, n'ont pas voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, je suis en compagnie de Marc Bradfer et de Thierry Catalano. Marc Bradfer qui nous présente un ouvrage intitulé Notre-Dame et ses sœurs, c'est-à-dire les 103 cathédrales de France, autour évidemment de Notre-Dame de Paris dont nous allons parler, et Thierry Catalano qui est poète et qui offre dans cet ouvrage un très beau poème sur Notre-Dame. Et évidemment, on parlera également de l'association pour laquelle il a œuvré poétiquement et qui est un très beau livret de poèmes. Donc, nous parlions évidemment des cathédrales. On pourrait parler des cathédrales de nos régions, et pardon à nos auditeurs si on va un petit peu vite, parce que évidemment il y a celle de Toulouse qui est un peu biscornue, celle de Toulouse. Elle a du charme, mais enfin, elle est faite de plusieurs parties, rien n'est dans l'axe, c'est assez original. Parlons peut-être de l'église, de la cathédrale d'Albi, qui est quand même assez extraordinaire. Peut-être que Thierry Catalino, vous pourriez en parler également, parce que vous la connaissez bien.
La cathédrale d'Albi?
Oui.
Mais je l'ai visitée en tant que Toulousain. C'est une cathédrale qui est magnifique, notamment de sa polychromie, hein, puisqu'on en parlait à l'instant. Quoi vous dire de plus sur cette cathédrale?
C'est quand même c'est la seule aussi peinte, disons.
Oui, c'est la cathédrale en Europe la plus peinte, la plus décorée, puisque
un bleu magnifique.
Près de 2 hectares, 18 000 mètres carrés de peintures, de fresques et d'ornements. C'est unique, avec sur 200 mètres carrés un tableau de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Elle a été érigée en 1182 par Bernard de Castanet, évêque d'Albi, qui était d'une autorité, d'une tyrannie. N'hésitez pas, pour quelques larcins, à faire pendre les adolescents.
Bon, alors on
n'en parle pas.
Bien sûr. Il y a Cahors aussi, dont j'ai appris quand même que c'était l'un des plus vieux et vastes édifices religieux de l'Hexagone, et on vient de célébrer ses 900 ans.
Exactement, ce qui prouve à quel point, dans des régions de France, hors de l'île France,
et
des grandes régions,
oui,
des grandes régions du Nord,
du,
la Champagne, la Normandie bien entendu, que dans nos régions de terroir, on pourrait dire, dans la France périphérique, expression à la mode aujourd'hui, eh bien les cathédrales, déjà à l'époque, avaient un rôle central et social majeur.
Alors, avec un mélange, celui-ci, ici, de roman gothique et byzantin, au point que Viollet-le-Duc n'a pas voulu s'y attaquer, peut-être que merci. Enfin, il n'a pas fait que des choses ratées, quand même. On pourrait parler de Tarbes, de Montauban, évidemment. Mais vous vouliez, Marc Bradfer, parler de Strasbourg rapidement, hein, s'il vous plaît, parce que, vous voyez, on a beaucoup de choses à dire.
Bien sûr. Non, à l'époque contemporaine, où la France, depuis un siècle ou deux, bien sûr, se déchristianise à vitesse grand V, Mgr Le Gall ne me dirait pas le contraire, on voit bien que dans des moments de l'histoire où la France a besoin d'être rassemblée, d'être réunie, et d'être réunie autour de ses valeurs fondamentales, qui sont la source du passé et l'espérance de l'avenir, la cathédrale a un rôle majeur.
Mais vous ne vouliez pas me parler de Strasbourg ?
Mais je vais vous en parler.
Ah bon ?
Je vais vous en parler.
je vous mets la pression.
Non, pas du tout, pas du tout. Parce que Strasbourg occupe dans l'histoire contemporaine une place éminente. Le 17 novembre 1918, le Te Deum à Notre-Dame consacre la victoire de la France et des Alliés et la fin de la guerre, la première guerre mondiale, la première guerre mondiale la plus meurtrière au monde. Le 26 août 1944, le lendemain de la libération de Paris, le général de Gaulle entonne le Magnificat alors que les balles sifflent encore autour de la cathédrale.
Oui, mais là nous sommes à Notre-Dame.
Nous sommes à Notre-Dame.
Mais nous ne sommes pas à Strasbourg.
Nous allons y arriver.
Rapidement.
Pourquoi d'abord à Notre-Dame? Rapidement. Parce que la deuxième DB arrive à Paris. Mais le 2 mars 1941, à Couffrat, et Thierry Catalano, qui a écrit aussi sur le général Leclerc et sur Couffrat, ne me démentirait pas. Les hommes, ces premiers hommes de la France libre, guidés par leur chef, le général Leclerc, engagent le serment de Couffrat. Car lorsque les trois couleurs de la France flotteront au sommet de la flèche de la cathédrale, la France aura gagné. D'accord. Et le serment a été... réussi, puisque le brigadier Lebrun, ancien couvreur qui n'avait pas le vertige, franchit les degrés de la flèche de Strasbourg pour accrocher les trois couleurs de la France.
Alors, on a parlé de ces cathédrales qui imposent un sentiment de paix, de confiance, d'assurance. Et Monseigneur d'Agence a parlé de l'harmonie. J'aimerais, Marc Bradfer, que vous nous parliez, lisiez un extrait de ce texte de Monseigneur d'Agence, qui est donc le... Je vais vous le donner.
L'harmonie dans les corps vivants résulte du contrebalancement des masses qui se déplacent. La cathédrale est construite à l'exemple des corps vivants. Ses concordances, ses équilibres, sont exactement dans l'ordre de la nature, procèdent des lois générales. Les grands maîtres qui ont édifié ces merveilles possédaient toute la science et parvenaient à l'appliquer parce qu'ils l'avaient puisée à ses sources naturelles, primitive, et parce qu'elle était restée vivante en eux. Et Monseigneur d'Agens, dans le cahier central de Notre-Dame et ses sœurs, les 103 cathédrales de France, intitule un de ses chapitres
oui. «
Plantée dans la terre et dressée vers le ciel ». Et l'harmonie que vous évoquez, vous avez parfaitement raison, c'est une harmonie intérieure qui rencontre les grandes harmonies extérieures de la nature.
Alors,
l'homme ne peut être réconcilié que dans cette harmonie-là fondamentale.
Alors j'aimerais également, alors Thierry Catalano si vous acceptez, lire un extrait d'un texte de Sylvain Tesson dont on parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai qu'il a il écrit magnifiquement et qu'il a été extrêmement touché par ce qui s'est passé à Notre-Dame. Un texte sur la forêt, c'est ainsi que l'on nomme la charpente de Notre-Dame. Voilà, c'est la seconde partie en bleu.
La forêt, c'est ainsi que l'on nomme la charpente de Notre-Dame. On devrait dire la jungle, car c'est un enchevêtrement de poutres ajustées les unes aux autres, sans rivets ni chevilles. Un mikado de châtaignier. Ils nous expliquèrent qu'on ne doit pas crucifier la poutre et que l'équilibre des forces, la souplesse des bois et l'intelligence des géométries suffisent à soutenir 210 tonnes de toit de plomb sans besoin de planter un seul clou.
Voilà, oui, le côté magnifique. Et on comprend le drame qui s'est déroulé sous nos yeux en direct et qui a ébranlé le monde entier. Ça, c'est assez étonnant de voir que la cathédrale Notre-Dame de Paris représentait tellement de choses, à la fois religieuses et sociales, et même politique. Et vous en avez dit un mot tout à l'heure, Marc Bradfer. C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses dans Notre-Dame de Paris. C'était un symbole, mais à beaucoup de points de vue.
Bien sûr, Napoléon, pour réconcilier la France avec la papauté, se fait consacrer empereur le 4 décembre 1802 à Notre-Dame de Paris. Le pape se déplace à l'invitation, sinon à l'injonction, du futur empereur le 12 novembre 1970. Ce sont des obsèques retransmises au niveau mondial du général de Gaulle, qui entonnait le Magnificat le 26 août, 25 ans auparavant. Le 11 janvier 1996, nous avons les obsèques politiques à Notre-Dame de Paris du président Mitterrand, et c'est Monseigneur d'Agence qui fait les obsèques, qui célèbre les obsèques, on peut dire, religieuses à Jarnac, avec la dépouille du président défunt.
Alors, évidemment, ces cathédrales, et particulièrement Notre-Dame, ont été chantées par beaucoup de nos poètes. Je pense à François Villon, ça a été le premier, qui dit « C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir ». Théophile Gautier, Victor Hugo, bien entendu, qui est cité. Évidemment, Gérard de Nerval, tous les deux d'ailleurs, ont eu presque une vision prémonitoire, c'est assez étonnant. Tout ça, cet incendie, on s'est posé les questions. Monseigneur d'Agen se dit, est-ce qu'il y a un porteur, est-ce que cet incendie est porteur de messages? En tout cas, si ce n'est pas vraiment porteur de messages, nous, ça nous a fait réfléchir.
Oui, bien sûr. On réfléchit parce qu'on fléchit, d'abord. Le verbe vient de là.
Oui.
S'il y a une catastrophe, il y a un sursaut intellectuel et spirituel
et puis, du
pour
coup,
retrouver la vie et les forces.
Et risquant de la perdre, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle représente pour moi? C'est ça.
Exactement, parce que une part des monuments qui s'effondrent, c'est une part de notre histoire à laquelle nous tenons. La France n'est pas seulement une économie et une politique.
Oui.
C'est une nation, c'est un peuple qui se retrouve dans sa culture, dans son histoire, qui
et
doit
exactement.
Toujours être tournée vers l'avenir.
Alors, vous allez me dire, Sylvain Tesson encore, qui a parlé, le monde entier se mit à pleurer devant les décombres. Des jeunes gens vinrent chanter sur le parvis. D'autres se souvinrent que la vocation de l'homme n'était pas de courir les allées des supermarchés. Des Français se mirent à genoux dans la rue. Spectacle oublié. Chagrin immense et partout partagé. Il naquit des tristesses en des cœurs qui se pensaient solides. Nous avions compris n'être pas dignes des flèches. Il fallait se montrer à la hauteur du malheur. C'était notre dernière chance. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un moment de désespoir, mais un moment d'espérance. Et Thierry Catalano, j'ai beaucoup aimé votre texte, votre poème. Pouvez-vous nous le lire ?
Avec plaisir. Donc j'ai intitulé ce poème « Elle était », purement et simplement pour les raisons que vous venez d'évoquer, en fait. Avec, bien entendu, une espérance, c'est ce qu'elle sera. Mais ça sera peut-être l'objet d'une autre écriture.
Voilà.
« Elle était ». Elle se tenait très fière, ô combien élégante. Elle traversait le temps, les siècles, les années, la rendait chaque jour encore plus émouvante. Elle aveuglait Paris, de lumière effrénée. Elle était tant aimée que la reine des reines des quatre coins du monde attirait ses enfants. Sur l'île Saint-Louis, immuable et sereine, on venait l'admirer quelquefois triomphant. Chaque jour, ses deux tours, observait majestueuse sur le parvis la foule venue l'adorer. Son tympan, ses vitraux, leurs couleurs délicieuses éblouissaient nos yeux, nous faisaient chavirer. Au-dessus du portail résonnait bien souvent son orgue, suspendu tout près de la rosace, et le son de sa voix toujours très émouvant balayait d'un seul souffle nos angoisses. Puis sa flèche, pointée comme un doigt vers les cieux, nous laissait entrevoir la route à parcourir. Fussent-ils riches, ou pauvres, ou même miséreux, elle était toujours là, prête à les accueillir. Elle était si choyée que son amie la Seine protégeait de ses bras le joyau éclatant. Elle était mon amie, que fut grande ma peine de la voir dans les flammes un beau soir de printemps. Vous sembliez nous parler, ô combien Notre-Dame de prières du cœur sont montées jusqu'à vous. Que de grâces obtenues pour d'innombrables âmes, venu se consoler à l'autel, à genoux. Si un jour de printemps des flammes dévorantes ont surgi en son sein et l'ont défiguré, ne soyons pas si tristes. Des âmes bienveillantes travaillent sans relâche pour la ressusciter.
Merci beaucoup Thierry Catalano. On pourrait dire à la veille de Noël qu'il y a une ode à Marie, c'était Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, ça signifie beaucoup.
Le christianisme est pour moi, des trois religions monothéistes, celle qui honore le plus la majesté, la nature, la puissance de la femme, dans sa féminité, dans sa puissance de création, dans sa fécondité biologique et spirituelle. Ce n'est pas un hasard. Si Dieu, notre Père, pour les uns ou pour les autres, choisit une femme qui doit d'abord lui dire oui, dans cette union mystique. Mais c'est une femme incarnée. Et la cathédrale de Pierre est une cathédrale de vie parce qu'elle porte dans l'architecture les grandes valeurs de l'incarnation que seul le christianisme apporte comme salut à l'humanité.
Alors, on va vous faire plaisir. On va entendre un court extrait de Magnificat de Bach. Nous avions le choix, mais vous avez demandé Bach.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Nous sommes toujours en compagnie de Marc Bradfer et d'un poète, qui nous a lu un de ses poèmes consacré à Notre-Dame de Paris. Il s'agit de Thierry Catalano. Alors, évidemment, nous parlons de cet ouvrage, Notre-Dame et ses sœurs, qui rassemble les photographies, de très belles photos en noir et blanc, c'est celle que j'aime, moi j'aime beaucoup le noir et blanc, des 103 cathédrales de France, et on parle évidemment de la métropole, mais également des pays d'outre-mer. C'est un très bel ouvrage, donc avec un texte de Mgr Claude Dagens, qui est de l'Académie française, mais également des poèmes, des extraits de poètes connus, de beaucoup de poètes, y compris de Thierry Catalano, qui nous a lu tout à l'heure son poème concernant Notre-Dame de Paris. Et je dois dire que cet ouvrage est accessible, voilà un beau cadeau de Noël, ou de premier de l'an, puisque vous m'avez dit qu'il coûtait 30 euros.
L'Église doit se mettre au service des plus humbles, donc nous avons voulu avec l'éditeur que le prix soit adapté
même
à la conjoncture.
Oui.
Même pas 30 euros, 28,80, nous n'allons pas chipoter. Nous avons voulu un livre très accessible parce que les cathédrales doivent rassembler. Et ce livre, et bien sûr, les droits, vous l'avez mentionné, nous vous en remercions, Thierry Catalano et moi-même, les droits d'auteur et de direction d'ouvrage sont reversés aux missions d'insertion de la Fondation Notre-Dame. C'est ma manière et celle de l'éditeur Hervé Poulain de contribuer à l'édification morale, spirituelle et architecturale aussi de la reconstruction de la cathédrale.
Oui, alors parce que quand vous dites mission d'insertion, c'est-à-dire...
Bien, le cardinal Lustiger a voulu, en créant la Fondation Notre-Dame, concentrer plusieurs activités autour de la cathédrale. Bien sûr, une activité... de réflexion purement théologique, mais aussi une activité sociale. Et c'est l'esprit de la cathédrale, d'associer tout le monde. Et donc j'ai appris, pour ce livre, quand je me suis inquiété de savoir auprès de quel organisme les droits pouvaient être versés, puisque je ne voulais pas qu'ils soient consacrés à la construction elle-même, à la construction purement technique.
Apparemment, il y a beaucoup de dons qui ont été faits.
Un milliard d'euros de promesses de dons.
Y compris de l'étranger.
Bien sûr, de l'étranger. Pour des raisons, parce que la France rayonne dans le monde. La France a cette culture, c'est le pays des droits de l'homme.
Et puis elle a un patrimoine exceptionnel.
La France est une idée purement politique, mais la politique s'inspire aussi de la culture et de son enracinement dans la tradition chrétienne, la tradition rationaliste et rationnelle, on pourrait dire, du XVIIIe siècle, mais aussi la Renaissance, etc. Donc, de ce côté-là, la France... a encore un message. Je ne dis pas que c'est un message évangélique. Il n'est pas seulement évangélique ou missionnaire. Mais elle a un message parce qu'elle a cette tradition et cette culture.
Donc voilà, toutes les sommes que vous verserez en achetant cet ouvrage sera versée à cette association. Alors, Thierry Catalano, moi j'aimerais que vous nous parliez de cette association pour la quelle vous offrez ces poèmes, 25 poèmes choisis pour Noël. Qu'est-ce que c'est cette association ?
C'est l'association donc Laurette Fugain, qui est présidée donc par Stéphanie Fugain. Sa maman, en fait, Laurette, était sa fille, qui est malheureusement décédée à l'âge de 22 ans par une leucémie. Donc sa mère, depuis cette date et depuis son malheur, a fait des pieds et des mains, et elle continue aujourd'hui à travailler et à œuvrer pour récolter des fonds pour la recherche. On a eu l'occasion, donc, avec Marc, de la rencontrer en février dernier au Cancer au Pôle, justement, où elle intervenait auprès d'un parterre de direction des ressources humaines pour, justement, collecter les fonds.
Elle a un dynamisme, une générosité incroyable.
Et générosité. Elle a poussé sa générosité à nous faire confiance, puisque je tenais d'abord à remercier mon éditeur Hervé Poulain pour le projet, et puis sur sa volonté d'éditer de la poésie, puisque vous savez que la poésie aujourd'hui, malheureusement, nous sommes plus au 19e siècle, la poésie est un peu délaissée, et pour autant, elle peut toucher, elle touche l'intime des personnes, et je pense que c'est une bonne expression aussi de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut porter comme espérance. J'ai donc répondu à la sollicitation de Marc, qui régulièrement, puisque nous sommes deux amis d'enfance, hein, il faut le dire, m'a sollicité, puisqu'il sait que j'écris, pour passer le pas de l'édition, et c'est avec plaisir que j'ai répondu à son appel. Donc l'appel, c'était d'écrire des poèmes sur Noël. Nous étions donc au mois d'octobre 2018, et j'avais déjà un peu écrit, et puis j'ai poursuivi, avec des thématiques certes religieuses, mais aussi profanes, et puis qui me touchaient plus particulièrement sur le temps qui passe, sur l'amour, sur Noël également.
Alors, hors antenne, je vous ai dit que je n'avais pas eu le temps de lire tous vos poèmes, mais je dois dire que ceux que j'ai vus m'ont beaucoup plu, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai eu du mal à faire un choix, sincèrement. Voilà, c'est vrai que c'est sur le thème de Noël, cet ouvrage ne coûte que 5 euros, où peut-on le trouver ?
Oh ben, vous le trouvez dans les librairies, vous le trouvez dans les espaces culturels Leclerc, vous le
d'accord,
trouvez un peu partout
d'accord.
en France.
Hein. Ah oui, d'accord. Alors, j'aimerais que vous nous en lisiez au moins deux.
Alors écoutez, je vais répondre à votre sollicitation hors antenne. Vous m'aviez dit de lire Noël, c'est la première d'ailleurs. Il y en a 25 en fait.
Oui, moi, parce que c'est le Noël familial avec l'enfant qui est là.
Mais avec plaisir,
ça.
Donc je vais vous la lire. Ô ville illuminée aux vitrines en fête, beauté des avenues et leur guirlande d'or, Noël est arrivé portant dans sa palette lumière de couleurs et merveilleux décors. Dans la ville gelée resplendit la lumière. Les passants se pressent pour les derniers cadeaux, c'est la nuit de Noël. Il n'y a plus de frontières, bien des enfants au monde ont ce soir le cœur chaud. Les lumières scintillent au-dessus de nos têtes comme une pluie tombante sur le bord du trottoir. Les petits sont ravis, ils vont faire la fête et songent au présent qu'ils auront tous ce soir. Dans de douces musiques aux échos grégoriennes, nous voilà revenus de la messe à minuit, festoyant et mageant devant le beau sapin, enivrés de bonheur, nous sommes tous réjouis. Dans la salle à manger, immuable et sereine, la crèche nous rappelle au milieu de nos bruits que l'enfant qui est là, qui a eu tant de peine, est celui qui nous aime et qui nous réunit.
Voilà, c'est le Noël qu'évoquent souvent les adultes, cette nostalgie de l'enfance et de ce mystère de Noël, hein, le retour de la messe de minuit, la fête finalement. Et il y a également un autre très beau poème que j'aimerais que vous nous lisiez, « Au seuil de cette grotte perdue de Bethléem ».
Voilà, oui, donc ça c'est « Les anges et les bergers », Monique.
Oui.
Et c'est la deuxième partie d'un poème qui est effectivement assez long. C'est pour ça qu'on va traiter voilà. On va lire la deuxième partie, comme vous me l'avez demandé. Au seuil de cette grotte perdue de Bethléem, ils arrivent émus devant ce triste endroit. Et les pleurs de l'enfant et la mère qu'il aime, c'est celle du Sauveur, tout près du feu de bois. Le plus jeune berger s'avance lentement, suivi par tous les autres qui marchent en silence. Et Joseph, très heureux, les reçoit humblement avec Marie, touchée par cette bienveillance. Qui, d'un large sourire, présente son enfant. Les torches des bergers éclairent leur visage. Jésus ne pleure plus. Il l'admire en pensant aux paroles de l'ange et à son doux présage. L'un d'eux se lance et dit « Prends, mère, elle est soyeuse, et lui offre une peau de brebis toute blanche. Mets ton fils dans la laine. » Et Marie, bienheureuse, enveloppe Jésus, appuyé sur sa hanche. Il sourit au berger et, bien qu'agenouillé, s'incline en l'adorant dans un profond silence. Des larmes pour les plus vieux de leurs yeux extasiés coulent très lentement comme une eau de jouvence. Le moment est venu de quitter cet enfant et d'aller annoncer la très bonne nouvelle. Tous partent en pleurs, mais c'est en reculant qu'ils quittent ce haut lieu que rendra éternelle la naissance du Christ dans ce monde ici-bas. Joseph, transfiguré, lui, regarde et adore Marie toujours assise l'enfant dans ses bras. Elle berce le Sauveur à côté d'une amphore.
Voilà, un grand merci, un grand merci. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un ouvrage court, de Thierry Catalano qui a rassemblé 25 poèmes choisis pour Noël. Les droits d'auteur de cet ouvrage sont intégralement reversés à l'association Laurette Fugain qui lutte donc contre la leucémie. Et je rappelle à nos auditeurs que Marc Bradfer est venu présenter cette idée géniale, hein, je le dis, qui consiste à rassembler les 103 cathédrales de France, leurs photos, des textes d'auteurs très connus et également un texte long de Mgr Claude Dagen de l'Académie française qui parle de la cathédrale, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle noue, de ce qu'elle, en quoi elle nous fait vivre. Un grand merci à tous les deux.
Au revoir. Merci Monique.
Merci Monique.